Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Et pour Anne-Thérèse de Kersmacher, vous êtes tout pardonné. Parce qu'elle jugeait la pièce de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, blasphématoire et christianophobe, l'association Agriff poursuit en justice le théâtre du Rond-Point et les éditions Les Solitaires Intempestifs, nous apprend une micro-brève du Figaro. Fleur Pellerin a donc raison, comme le rapporte l'Express, de s'alarmer de l'augmentation du nombre d'atteintes à la liberté de création. L'affiche du film La Belle Saison Censurée, œuvre d'Anish Kapoor, vandalisée, pression sur la programmation des théâtres, on en parle beaucoup ici. La ministre de la Culture aimerait mobiliser les principaux intéressés sur le sujet, mais peine à y parvenir. Selon l'hebdomadaire, les artistes sont rétifs, inquiétants à l'approche de la présidentielle pour la gauche qui a longtemps pu compter sur l'appui des milieux artistiques, s'interroge la brève, mais il y a plus urgent encore, s'adresser aux jeunes des quartiers défavorisés, peu convaincus eux non plus de l'action du gouvernement actuel. C'est ce à quoi s'attelle la ministre en répondant à trois journalistes du Bondi Blog, Lansala Del Cielo, Anan Kadour et Latifa Oulkhouir, dans le Libération de ce matin, pris d'assaut, comme le dit la une, par les jeunes blogueurs. Vous ne trouvez pas que l'argent public sert davantage à financer une culture des élites ou ceux qui entrent dans la catégorie de ce que vous avez nommé la culture cultivée, lui demande-t-il Franco. Réponse de Fleur Pellerin, l'opéra, la comédie française, le Louvre sont de grandes institutions, ce sont des temples de la culture dite savante, des lieux où la culture française rayonne à travers le monde. Notre devoir est justement de faire en sorte que chacun puisse s'y sentir légitime, qu'il ne soit plus réservé qu'à une élite. En même temps, il nous faut aussi rééquilibrer nos champs d'intervention, à la fois sur le plan géographique et sur le plan des esthétiques, parce qu'il ne me semble plus en phase avec l'époque. Je crois que ce ministère, comme tous les autres, doit être en phase avec la société. Lorsque je dis que je souhaite que les conservatoires puissent désormais délivrer un enseignement professionnel de hip-hop, c'est une petite révolution. Mais ces propos les tient-elle devant des responsables politiques et des élite culturelle, lui demandent les blogueurs. Oui, à chaque fois, assure Fleur Pellerin, ça demande de l'engagement et du volontarisme. Je veux être une ministre de la culture qui sait répondre aux enjeux du 21e siècle. Cela implique d'être capable de dire aux représentants des institutions culturelles qu'il faut rééquilibrer leur politique et les encourager à développer leurs actions sur tous les territoires. Ce sont des choses dont les responsables de ces institutions sont absolument conscients. Ils voient bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de mener une politique pour 10% de la population. Réagissant à la polémique abordée ici la semaine dernière sur l'incarnation d'Othello par Philippe Torreton en janvier à l'Odéon, la ministre de la Culture juge que dans le théâtre, dans la danse, il y a un problème de représentation. C'est pourquoi j'ai souhaité, dit-elle, qu'il y ait auprès de moi un haut fonctionnaire en charge des questions de la diversité, en plus d'un collège, à la fois pour objectiver les situations, pour nous interpeller, pour mettre le doigt là où ça fait mal. Nous devons réfléchir à la question de toutes les nominations, aussi bien dans les bureaux que sur scène. Est-ce à cause de cette réflexion que le ministère de la Culture a décidé d'évincer François Rancillac de la direction du théâtre de l'Aquarium ? Question timing, le ministère de la Culture a fait en tout cas assez fort, comme le raconte Gilles Renaud à nouveau dans Libération. C'est lors de la présentation du vertueux festival des écoles du théâtre public à la veille des grandes vacances qu'a été annoncée, façon bombe à fragmentation, la future éviction de François Rancillac. Un mauvais signal de plus, envoyé en des temps bien confus, entre un certitude planant sur l'avenir du théâtre de la Cité Internationale à Paris et nomination de Muriel Mayette à la tête de la Villa Médicis à Rome, jugée aberrante, scandaleuse, absurde, inique. Le choix est vaste. Dans sa présentation de la saison 2014-2015, François Rancillac donnait ainsi le ton. À sa toute petite échelle, le théâtre de l'Aquarium tente de résister contre la tempête molle du fatalisme politique ambiant, l'absence totale de perspective. D'aucuns dans les hautes administrations lui conseillent plus ou moins gentiment, plus ou moins gêné, de baisser la garde, faute de moyens, c'est-à-dire d'en faire moins et plus fédérateur, entre guillemets, c'est-à-dire plus vendeur, parce qu'il faut bien céder au sacro-saint sens des réalités. Et c'est pourquoi, écrivait Rancillac, l'Aquarium en fera plus et en toute responsabilité. Plus d'artistes associés, plus de spectacles ambitieux et généreux à l'affiche, plus de musique et de concerts, plus de projets d'action artistique en direction des publics les plus divers et notamment des amateurs et des jeunes. Moins d'un an plus tard, la DGCA, le département du spectacle vivant du ministère de la Culture, lui montre la sortie à compter du 30 juin 2016. Alors que François Rancillac postulait légitimement pour un troisième et dernier mandat, ça n'est pas tant son projet que les tutelles semblent vouloir dégommer que le lieu tel qu'il est connu et apprécié. Situé en plein cœur du bois de Vincennes, l'aquarium est en effet une des 5 structures de la cartoucherie, la très productive usine de munitions culturelles fondée en 1970 par Ariane Mnouchkine. Agora, plus que citadelle, cette utopie théâtrale devenue réalité pourrait donc être menacée dans l'hypothèse où l'aquarium ne serait que la première étape d'une refondation du projet. Dans Libération du 20 octobre, un comité de soutien où figurent les fondateurs Jacques Nichet, Jean-Louis Benoît et Didier Bezas et plus de 7000 signataires a publié un texte dénonçant la menace de l'aquarium converti en phalanstère à compagnie réservé à un seul artiste sélectionné pour sa surface médiatique et ses moyens de production et qui pourrait investir le lieu de son seul travail. À terme, certains murmurent que la cartoucherie pourrait même être transformée en village olympique dans l'hypothèse où Paris organiserait les JO de 2024. Et oui, le sport, ça au moins, ça parle aux jeunes.